Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 15 mai 96.
Ce désir de vérité, le corps qui viennent l'imiter et qui limitent ma recherche de vérité, le conditionne très fort et quelquefois l'arrête à cause de la fatigue, à cause de la maladie. Quand j'ai de la fièvre, quand je suis malade, quand je suis grippé, ma recherche de vérité est quand même un peu moins brillante que lorsque je fais bien. Il y a un frein qui vient empêcher ma recherche de la vérité de développer pleinement ce qu'elle demanderait par elle-même d'être. Donc, du côté de la vie, de l'intellectuel, le développement de ma vie intellectuelle, cette recherche et donc la limite. Toute ma vie intellectuelle est marquée par la présence du corps. Quand il s'agit de la vie affective, c'est très différent. Mon corps peut encore jouer un rôle de conditionnement. Il joue encore un rôle de conditionnement, donc de limitation. C'est sûr que ma vie affective sensible est limitée par mon corps. Et elle prend ce caractère d'une très grande complexité à cause du corps. Les 11 passions qui montrent la complexité de ma vie affective, passionnelle, montrent bien que ma vie affective, à cause du corps, connaît une très grande complexité. On passe de l'amour à la haine. Je ne dis pas facilement, mais cela peut très bien se faire en raison de refoulement affectif, en raison de jalousie, en raison d'opposition des contraires au niveau affectif. Et donc, mon affectivité sensible, passionnelle, ces 11 passions peut se développer de façon très complexe et donc de façon très limitée par la complexité et à cause de la complexité. Et cependant, cette complexité implique une certaine richesse. Mon affectivité sensible et patient implique une certaine richesse. Les 11 visages de l'amour, point de vue affectif, ça vient de mon corps. Toute la complexité affective qui se manifeste d'une manière si forte dans la vie commune, auquel je dois tenir compte, font que ma personne humaine, dans son affectivité, a beaucoup de peine de garder une unité. On passe par des états affectifs presque opposés en un rien de temps. Certains tempéraments sont comme ça. Mais c'est... extrême. C'est très curieux. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais certains tempéraments particulièrement affectifs et passionnels sont comme ça.
Amen.
passionnel à toujours. Je ne peux pas me couper, me séparer de cet amour passionnel. Je peux l'éduquer et faire que cet amour passionnel n'est plus un obstacle au développement de mon amour spirituel. Mais je ne peux pas arracher de mon cœur l'aspect passionnel. Il est toujours présent. Il peut encore une fois connaître certains moments de grande paix. Le haut plateau. Ça éclate. On ne sait pas pourquoi. Une mauvaise suggestion. Parce que c'est le camp. Au niveau affectif, spirituel, donc au cœur de l'amour d'amitié, il y a une réciprocité volontaire. L'ami pour lui-même. L'aspect du corps est encore présent, puisque j'aime mon ami tel qu'il est, avec son corps. Alors, on peut dire que là, le point de vue du corps n'est pas premier. Il est second, mais il est essentiel. Et il modifie mon amour spirituel. Il permet à mon amour spirituel de se manifester, de devenir visible. Aux manifestations d'amour. Et le geste a quelque chose de plus fondamental dans la manifestation d'amour que la parole. Le geste a un réalisme qui me lie à la terre, puisque le geste, le toucher, c'est le chaud et le froid. Le tiède, c'est le rugueux et le doux, c'est ça le toucher. Eh bien, on est là en face de sensibles très proches de l'amour. Et il faut comprendre que cette manifestation l'amour par le point du corps, c'est le domaine de tout ce qui se manifeste et donc des apparences, peut aller très loin. Puisque dans certains cas, la manifestation pour certains tempéraments manifestation. Certains peuvent avoir l'impression qu'il n'y a pas d'amour. Plus la personne humaine est loin de sa finalité, plus la manifestation prend d'importance. Manifestation corporelle peut jouer un rôle très personne humaine une possibilité de division et donc de drame. Vous comprenez comment certains peuvent définir la personne humaine par le drame, la tension. Là, ça, chez Nietzsche. Et vous le voyez au niveau passionnel, et vous le voyez au niveau spirituel et artistique. Un tempérament très artiste voudra toujours que l'amour se manifeste. Et la manifestation de l'amour sera pour lui absolument essentielle. S'il n'y a pas cette manifestation, on ne croira plus en l'amour de l'ami. Et on lui dira, pourquoi es-tu si froid? Pourquoi es-tu si indifférent? Alors l'autre peut répondre, mais pas du tout. Je ne suis pas du tout indifférent. Et tu es indifférent quant à tes manifestations. Tu es extérieur quant à tes manifestations. Et donc, je ne te saisis plus. Je ne te comprends plus. Vous voyez ? Tout l'aspect manifestation, apparence, peut devenir dans certains tempéraments artistiques quelque chose d'essentiel et de primordial. Alors qu'en réalité, ce n'est pas essentiel et primordial. L'amour n'est pas la manifestation d'amour. L'amour peut très bien exister sans manifestation. Mais l'amour a besoin de la manifestation à cause de l'autre. Et quelquefois, à cause de son propre tempérament. Si vous êtes très artiste, vous avez besoin de la manifestation d'amour, même vous-même, pour vous. Pour se donner la certitude qu'on aime. Si on est subitement dans une période d'aridité, on ne sent plus rien du tout. On ne manifeste plus rien du tout. On se met soi-même à douter de l'amour qu'on a. Je ne ressens plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Ça peut arriver en raison même de la complexité de la vie humaine, pour des quantités de raisons, des raisons de fatigue souvent, ou des raisons d'âge. Et la manifestation d'amour se fait et est plus essentielle dans la jeunesse que dans la vieillesse. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a une intériorité toujours plus grande avec la vieillesse. La vie spirituelle a pris une place plus importante. Et donc, c'est l'intériorité qui s'affirme en premier lieu dans l'amour. Et l'aspect visible, extérieur, la manifestation, est très secondaire. Ces choses-là, parce que c'est très important. Ça montre, vous voyez, combien le corps est difficile à assumer en raison même de cette diversité d'aspect passionnel et d'aspect spirituel. La manifestation dans l'aspect passionnel est absolument essentielle. Toute passion se manifeste. C'est propre de la passion de se manifester. Vous manifestez vos désirs, vous manifestez vos souffrances, vos tristesses, et la manifestation, quelquefois, devient plus importante que l'amour, que le contenu. J'ai des tempéraments artistiques, c'est ce qui se passe. J'ai des enfants, c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas mal du tout, mais ils pleurent. mal. Il dit oui, oui, oui. Et deux minutes après, parce que vous lui avez, vous avez été là, ça disparaît. Ça prouve qu'il n'a pas mal. Et au moment même, il avait mal. Et c'était la manifestation qu'on s'occupe de lui. Il avait l'impression d'être seul. L'isolement. Alors il avait besoin de crier. Crier, c'est pas se manifester. Il avait besoin de manifester d'une façon, quelquefois même violente, qu'il était là et qu'on devait s'intéresser à lui. C'est un appel. Mais quelquefois, le contenu réel est très faible. Chez des artistes, ça peut être des tempéraments artistiques. Pas chez des artistes, mais dans des tempéraments plus sensibles, plus affectueux, plus passionnés. On trouve ça. Alors vous voyez, il faut étudier au point de vue de la présence du corps dans l'affectivité. Il faut voir comment dans l'affectivité passionnelle, la présence du corps est absolument essentielle. Elle, c'est le corps qui fait la passion. Et quand votre amitié tend à être une amitié utilitaire ou une amitié de jouissance, on peut dire que là encore, le corps est un arrêt, un obstacle, un amour spirituel. Et dans le côté affectif et du côté du développement affectif, le corps joue donc un rôle beaucoup plus important que dans le développement intellectuel. Et cette importance de ce développement est ou positif ou négatif. Il peut devenir un obstacle, donc c'est négatif. Il peut être un rayonnement qui aide à aimer plus, c'est sûr. Quand vous aimez passionnément quelqu'un, ça peut aider vraiment à l'aimer de façon plus spirituelle. Mais ça peut être aussi un très grand danger qui vous arrête et vous empêche de l'aimer vraiment. On a tous fait cette expérience-là. Et on voit très bien comment la passion, au point de vue du développement de la personne humaine, peut être une manière merveilleuse d'un développement, une manière merveilleuse de montrer le rayonnement de la personne humaine et aider à aller plus loin, comme un appel pour aller plus loin. Mais ça peut être aussi un obstacle qui arrête. Et là, l'aspect quantitatif joue beaucoup. Un tempérament extrêmement passionné. Comprenez que l'aspect quantitatif du temps, le temps que vous passez avec quelqu'un, joue énormément pour faire que la passion se nourrisse et devienne une passion qui devient un obstacle à un vrai développement spirituel. Là, on doit comprendre, essayer de comprendre ça. Il ne faut pas augmenter la présence sensible parce que elle risque de faire que ce soit un feu qui brûle tout. Et à ce moment-là, la passion arrête le développement spirituel et devient mauvais. C'est la passion qu'on cherche plus que tout. Vous voyez, c'est complexe. Je peux aussi signaler que du côté de l'apparence, le corps permet que l'amour devienne visible. Ce qui se montre dans le regard, ce qui se communique dans le regard, l'amour spirituel qui est lié à l'amour passionnel. L'amour spirituel n'est pas lié au regard, il est lié à la présence. C'est différent. Mais l'amour passionnel est lié au regard. Ça, c'est sûr. C'est par le regard qu'on attire et qu'on séduit. Toute séduction se fait par le regard. Parce que c'est le point de vue du regard par où le point de vue du corps sensible peut être transformé par le point de vue artistique. Et le point de vue artistique peut être au service de l'amour par le point de vue de la séduction. Et c'est le jeu de lumière et des regards qui jouent ce rôle de séduction. Je me souviens d'un vieux père maître qui avait une très grande expérience de ce que pouvaient être les relations mutuelles. Il disait toujours, c'est à travers passion que la passion s'éveille le plus. L'imagination qui fait partie du corps l'imagination qui, j'allais dire, notre corps intérieur. Parce que c'est à la fois sensible et intérieur. Donc, immanent. L'imagination, normalement, au point de vue de la connaissance, ne fait que conditionner. Les images conditionnent ma pensée. Et ne font que conditionner ma pensée. Mais les images du côté affectif font beaucoup plus que conditionner. Les images dans les rêves, si vous voulez, dans les cauchemars, l'image est reine. Elle vous mène par le bout du nez jusqu'au moment où vous vous réveillez. Et alors à ce moment-là, comprenez, c'est complètement stupide de se laisser conduire par une image. C'est irréel. Et dans le côté affectif, les images jouent un rôle très important. Ça, on ne peut pas nier. Vous voyez, surtout avec le sevrage. Le noviciat est un sevrage terrible. Pour notre monde d'aujourd'hui. Mais un sevrage énorme qui fait que l'imagination augmente. On ne s'était jamais aperçu qu'on avait tant d'imagination qu'au noviciat. Au noviciat, l'imagination, à cause du sevrage. Vous voyez, les serres surchauffées. Il y a des plantes qui poussent avec un peu d'humidité. Donc il y a les pleurs, la tristesse et le sevrage. C'est un terrain étonnant pour l'imagination. On se rattrape dans l'imagination et on vit dans l'imaginaire. Alors, ce n'est plus du tout un conditionnement, ça devient une détermination. Et à ce moment-là, les images, à la place de nous servir, deviennent des obstacles à la vie spirituelle, à aller plus loin. Des obstacles peuvent être terribles, parce que ça peut corrompre la vie spirituelle. Alors comprenons bien, ça ne corrompt ma vie spirituelle que quand je suis complice de mes images. Si je ne suis pas complice de mes images, il n'y a pas de danger. Mais être complice de mes images, c'est accepter ce domaine imaginatif. C'est d'entrer dedans. De dire après tout, c'est très bien. Alors on se laisse porter par ces images, on se laisse déterminer par ces images. Et les images deviennent alors un obstacle terrible à la vie intérieure. Tout ce domaine de l'imagination. Donc le domaine d'un corps, du visible intérieur, immanent, que je porte en moi, demande d'être de plus en plus dépassé. Mais je sais que je n'ai pas un pouvoir direct sur mon imagination. Si j'avais un pouvoir direct sur mon imagination, je lui dirais de temps en temps, tais-toi, et l'imagination s'arrêterait. Je n'ai pas un pouvoir direct, j'ai un pouvoir politique, comme dit Thomas d'Aquin. Et je crois que c'est très juste. L'imagination demande d'être dépisté pour la remettre à sa place. Et m'en servir comme je dois m'en servir, ne pas me laisser déterminer par l'image. Me servir de l'image. Alors là, je retrouverai, vous voyez. Et ce serait très intéressant de voir comment l'imagination et le conditionnement intérieur immanent de la formation, de la croissance de ma personne humaine. L'imagination en soi n'est pas mauvaise. C'est évident qu'elle n'est pas mauvaise. Quelqu'un qui n'a aucune imagination, c'est quand même un peu ennuyeux pour lui et pour les autres. Mais quelqu'un qui a une imagination folle, ça peut être un terrible obstacle. Il n'en peut rien. Il a cultivé son imagination dans sa jeunesse, sans voir où ça le menait. Ça lui donnait des distractions perpétuelles. Et il vivait dans la lune, perpétuellement, grâce à l'imagination. Il décollait. Chez des jeunes, ça arrive constamment, ça. Ils décollent. Le monde dans lequel ils sont est tellement ennuyeux. Alors, on a un autre monde de récupération. Et on récupère par l'imagination. On dit, c'est pas mauvais, puisque c'est imaginaire. Donc, ça c'est rien. Oui, c'est rien. C'est quand même réel, l'imaginaire. C'est du réel intentionnel. Donc c'est du réel, c'est sûr, ce n'est pas le réel substantiel, mais c'est un réel intentionnel qu'on peut arranger comme on veut. Ce sont les possibles. Alors, dans sa jeunesse, on a laissé pousser son imagination. Follement, on l'a cultivé et on a aimé la cultiver. Quand on arrive à un âge où on fait le discernement entre le réel et l'imaginaire et qu'on sait que la vraie bonté n'existe que dans la réalité et que les images ne sont pas en soi bonnes, elles sont une certaine bonté, mais elles ne sont pas bonnes en elles-mêmes. C'est un terrain neutre. Mais ce terrain neutre, très vite, par la passion, est récupéré par la passion pour devenir un domaine dans lequel je suis complètement absorbé. Et je peux très bien, par une imagination folle, ne plus du tout avoir conscience de la distinction du bien et du mal. L'imagination comme telle est au-delà du bien et du mal, c'est-à-dire au-delà, en dessous du bien et du mal. Ça, c'est l'imagination. Et c'est pour ça qu'on aime tellement ce monde imaginaire, parce que ça nous repose de « il faut faire cela ». Ça, c'est pas du tout l'imagination. Vous voyez, c'est curieux, Kant, qui a fait un traité d'imagination qui est intéressant. C'est la seule chose intéressante de Kant. Il s'oppose. Vous voyez, le moral s'oppose à ça. Il faut l'impératif catégorique, qui est la manière de lutter contre l'imaginaire, mais qui n'est pas la vraie manière de lutter contre l'imaginaire, parce que ça excite l'imagination. Et la grande Sainte Thérèse, qui voit tout souvent sous un point de vue symbolique et spirituel, dit que lorsque vous voulez faire raison et que vous luttez contre l'imaginaire, petit à petit, le vol des pigeons va toujours plus loin. L'imaginaire, elle le compare au vol des pigeons. Alors quand vous avez des pigeons, vous voulez les prendre, vous les voyez tout près, vous vous précipitez dessus, vous ne l'attrapez pas. Le gosse qui cherche à attraper un pigeon, c'est très amusant. Le pigeon vole toujours plus. Et alors, la grande intérêt fait la comparaison avec l'imaginaire. Vous luttez contre l'imagination, et l'imagination vous emporte toujours plus loin. Alors il faut comprendre que pour lutter contre l'imagination et dominer l'imagination, il faut une stratégie militaire et la stratégie d'enveloppement. C'est-à-dire, il faut faire des actes volontaires, concrets, ou des actes d'adoration. Parce qu'un acte d'adoration est un acte concret. Alors, où faites toute votre vitalité passe là, et l'imagination s'arrête. Mais voyez, c'est en faisant des actes positifs et pas en luttant contre l'imaginaire. Si vous commencez à lutter contre l'imaginaire, vous êtes sûr d'avance d'être vaincu. Si au contraire, vous avez la sagesse de lutter contre l'imaginaire en faisant des actes positifs, distincts de l'imaginaire, des actes humains, des actes d'adoration, des actes d'amour de Dieu, de foi, ces actes positifs vous entraînent vers votre finalité. Et par là, vous libère de l'imaginaire. Quelqu'un qui vit constamment finalisé. L'imaginaire régresse et prend de moins en moins de place. Il ne voit plus que sa finalité. Ça que j'appelle, vous voyez, une tactique enveloppante. On passe dessus, pas directement contre. Lutter contre l'imaginaire, c'est d'avance perdu. Il faut donc avoir suffisamment de recul pour poser des actes positifs, finaliser des actes d'amour, des actes d'adoration au plan religieux. Et au point de vue humain, s'habituer à faire des choses concrètes, une application d'un devoir qu'on écrit, ou d'un poème qu'on écrit, et passer d'un exercice à un autre exercice, d'exercice concret. M'empêche des études de texte, par exemple. J'analyse un texte. Je ne pars pas dans mes intuitions qui peuvent très bien se laisser emporter par l'imaginaire. Il y a tout un... Et dans notre monde d'aujourd'hui, vous voyez, c'est capital parce que nous vivons un monde imaginaire de plus en plus fort. Et si ce monde imaginaire devient de plus en plus fort, l'aspect éducation sur soi-même, l'auto-éducation, l'aspect spirituel s'envole, disparaît. C'est sûrement un des caractères de notre monde d'aujourd'hui, ce développement de l'imaginaire pour lui-même. Alors dès qu'on détecte, on doit tout de suite comprendre que pour nous, c'est le plus grand danger, parce que ça supprime cette emprise du véritable amour spirituel, du bien spirituel de Dieu qui nous attire, ou de l'ami qui nous attire, et qu'on aime comme ami, non pas comme une image, mais comme une réalité. Donc vous voyez, lorsqu'on parle du corps par rapport à la personne humaine, il faut distinguer d'abord le point de vue du corps. l'amour avec l'affectivité passionnelle, et puis distinguer ce corps intérieur sensible, tout ce domaine imaginaire. Parce que les deux luttent contre l'autre, les deux luttent, peuvent lutter pour supprimer en nous toute possibilité d'aimer vraiment, d'aimer spirituellement, d'adorer. Ou au contraire, lutte l'un contre l'autre. Parce que tout drame est alimenté par l'imaginaire. Et donc, l'imaginaire est au service du drame, des oppositions passionnelles, qui grossissent, qui deviennent énormes. Une petite haine peut encombrer toute notre vie. Et c'est grossi par l'imaginaire. On le sait. Alors on doit, à ce moment-là, prendre cette attitude de lutter contre l'imaginaire pour remettre l'imaginaire en place. Voilà les différentes dimensions de la personne humaine vue comme conclusion de l'éthique fondamentalement humaine. J'ajouterai, et on continuera de le voir la fois prochaine, que, étant donné la complexité de la personne humaine, je crois que dans toute personne humaine se trouve ces six éléments qu'on a vus. Mais étant donné la complexité de ces six éléments, la personne humaine va de fait se réaliser concrètement de manière très diverse. Il y a des types très différents de personnes humaines. Et ça, c'est important à voir. Il ne faut pas avoir une espèce de vision univoque de la personne humaine. Ce serait très mauvais. Et tu restes très impossible de rejoindre l'autre, alors. On projette sur les autres le type de personne qu'on a acquis. Alors, c'est facile à comprendre. Mais je crois que c'est très important de saisir ces divers développements. Vous voyez, on pousse plus loin le point de vue du concret, ce qui est normal, si la personne est un boss, un comment, il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre que ce concret est très important. Ce n'est, je crois, que de cette manière-là qu'on peut saisir